Chers amis, c'est encore une joie d'être ensemble, pouvoir méditer la parole de Dieu. Eh bien voilà, ce matin, nous allons avoir une longue lecture, je m'en excuse, mais pour que nous puissions comprendre exactement la prédication, il fallait lire tout le texte. Je vous propose un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Jean, chapitre 9, et nous lirons tout le chapitre. Je vais lire dans la version du semeur. Pour ceux qui suivent à la Bible, Jean chapitre 9. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question : Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot « Siloé » veut dire « envoyer ». L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme... n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ? » Les uns affirmaient c'est lui, d'autres le niaient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait c'est bien moi. Alors on le questionna, comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup j'ai vu clair. Et lui demandèrent, où est-il ? Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarent, cet individu ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ? Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle, voyons-toi, que dis-tu de lui puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ? « C'est sûrement un prophète, » répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il a été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir les parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils ? Est-il réellement né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » ?»« Nous sommes certains que c'est bien notre fils, » répondirent les parents, « et qu'il est né aveugle. » Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même, il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avait répondu, il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dire, honore Dieu en disant la vérité, cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. » « Je vous l'ai déjà dit, » leur répondit-il, « et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me faire répéter ? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ? » Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent : « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » « C'est étonnant, répondit l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et vous, vous ne savez même pas d'où il vient. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment ? Répondirent-ils. Depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. » Ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé, et il alla le trouver et lui demanda : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il lui répondit : « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. » « Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent : « Serions-nous par hasard nous aussi des aveugles ? Si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Une longue lecture, mais enfin pour comprendre un peu ce que je vais développer ce matin. S'il y a une question qui nous taraude bien souvent et qui taraude le monde, c'est celle-ci : est-ce que la maladie vient de Dieu ou du diable ? La maladie est-il une punition de Dieu, une malédiction ? On se pose souvent la question, que l'on soit chrétien ou pas, on dit bien souvent : « Oh ben, s'il a attrapé quelque chose, c'est une punition. Dieu l'a puni pour tout ce qu'il a fait. » C'est vrai que c'est une question difficile à répondre, et la réponse est souvent ambiguë. Chacun veut donner une explication à cela. Chacun veut trouver une explication sur la maladie, que l'on soit chrétien ou pas. On veut chercher une explication pourquoi l'on est malade. Si, par exemple, moi, en plein hiver, je me dis : « Tiens, je vais balayer ma cour, et je suis en slash avec mon beau short, et je sors en Marcel. » Il y a la Seine, hein, comme ça. Et je vais balayer ma cour, là, et il fait moins 10. Hein ? C'est pas une tenue vraiment pour travailler en plein hiver. Et le lendemain, je suis cloué au lit avec une bronchite. Et je ne veux pas dire, c'est Satan qui m'a envoyé une punition. Je crois que c'est de ma faute. Si j'étais un peu plus respectueux, si j'étais un peu plus sensé, eh bien, je m'habillerais pour travailler dehors quand il fait froid. Donc, je suis un imprudent, et mon imprudence a provoqué en moi cette maladie. C'est vrai que dans la parole de Dieu, on voit que Dieu envoie des maladies sur son peuple rebelle. Et nous voyons cela dans le livre des rois. Nous voyons le roi Akazia qui était malade. Et le prophète Élie lui dit, au verset 16 du chapitre 1er du deuxième livre des rois : « Voici ce que l'Éternel déclare : puisque tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébuth, le dieu des crons, comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël que l'on puisse consulter, eh bien, tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. » Donc là, nous voyons que Dieu a envoyé une maladie à ce roi rebelle, ce roi qui n'écoutait pas l'Éternel, qui consultait d'autres dieux, et lui a envoyé cette maladie jusqu'à la mort. Là, nous voyons bien que Dieu, dans l'Ancien Testament, ou même actuellement, pourrait permettre que des maladies surviennent sur certaines personnes parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Et nous voyons aussi que Dieu a permis à Satan, dans le livre de Job, de lui provoquer une maladie terrible, mais cette maladie était quand même sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôlait toutes choses, mais Dieu avait permis que Satan puisse envoyer une maladie, et nous voyons que Job prenait un teson pour se gratter tellement ça le démangeait. Derrière tout cela, nous avons un plan de Dieu qui veut se manifester au travers de la maladie, et je pense que tout chrétien doit être conscient que si nous sommes parfois malades, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et dans ce texte, nous avons un aveugle de naissance. Et nous pouvons imaginer la souffrance des parents d'avoir mis au monde un enfant handicapé de la vue. Et bien sûr, à l'époque, ce n'était pas aussi facile, il n'y avait pas des écoles spéciales pour aveugles et tout cela. Et ce pauvre jeune homme devait mendier pour pouvoir gagner sa vie. Et nous imaginons le questionnement des parents, les pourquoi et les comment. Pourquoi c'est arrivé à nous? Pourquoi notre famille est-elle ainsi frappée par le malheur? Pourquoi notre enfant est-il souffrant? Pourquoi notre enfant est-il non-voyant? Et je peux comprendre. Nous vivons un peu cela avec notre petit-fils Maël, et nous nous posons parfois la question, nous disons, Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu permis que notre fille, pendant sa grossesse, attrape ce virus et atteigne cet enfant? Et c'est vrai qu'il y a une souffrance en tant que grand-parent, et au niveau de ma fille et de son mari aussi, il y a une souffrance. Et on se pose parfois la question, mais pourquoi Dieu, tu envoies cela? Pourquoi Dieu, tu permets cela? Et je pense que c'est la question que tout le monde peut se poser. Dieu, entends-tu nos prières? Et je pense que ses parents de cet enfant aveugle devaient aussi, car ils étaient croyants, nous le voyons dans le texte, devaient certainement prier pour leur enfant et dire, Seigneur, pourquoi cet enfant, notre enfant, souffre-t-il ainsi et il ne voit pas? Et parfois, nous chrétiens, nous sommes parfois confrontés à la maladie, de nous-mêmes ou de nos proches, et parfois nous pouvons peut-être avoir les bras qui nous tombent, et nous sommes parfois presque au bord de perdre la foi. Et certains même perdent la foi, parce que Dieu ne répond pas comme on voudrait face à la souffrance. Et c'est la question que les disciples posent à Jésus, cet homme a-t-il commis un péché pour qu'il soit aveugle? Non, cet homme n'a pas commis de péché, ni ses parents non plus. C'est une erreur génétique pendant la conception de cet enfant, mais ce n'est pas à cause du péché. Bien sûr, malgré tout, quand Dieu a créé le monde, créé l'homme, créé tout ce qui nous entoure, Dieu a vu que tout était parfait. Si l'homme n'avait pas connu la chute, je pense que le handicap, et je crois, j'en suis même sûr, n'aurait jamais existé. Il n'y aurait pas de personnes handicapées de la vue ou d'autres, ou de paralysées ou quoi. Non, bien sûr, c'est une des conséquences du péché initial que la maladie, la souffrance est venue dans ce monde. Et la réponse de Jésus est la suivante, c'est pour que, qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Voilà la réponse de Jésus concernant cet homme. Car Jésus avait un plan pour cet homme. Jésus a un plan pour chacun d'entre nous quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des moments de maladie ou tout autre événement qui survient dans notre vie. Il est vrai que nous ne comprenons pas toujours tout de suite pourquoi certains événements difficiles surviennent sur notre vie et que Dieu se révèle progressivement dans notre épreuve. Et parfois, eh bien, nous n'aurons jamais la réponse ici-bas sur le pourquoi que ces choses nous sont arrivées. Jésus, pour cet homme, avait un plan de guérison. Et quand nous voyons la parole de Dieu, que nous voyons Jésus guérir les malades, nous voyons que Jésus ne s'y prend jamais de la même façon. Ici, il a une façon un peu spéciale d'intervenir. Il crache par terre, il fait de la boue avec son crachat, puis il prend son doigt et il l'applique comme une pommade sur les yeux de l'aveugle. Pas fort propre, hein? en période de Covid, on aurait porté plainte contre Jésus pour contamination. Mais Jésus s'y est pris ainsi, et puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Parfois, le Seigneur répond à nos prières. Et puis nous traversons une autre épreuve, et nous nous disons, le Seigneur va répondre de la même façon qu'il a répondu pour moi. Eh bien non. Chaque fois que nous avons peut-être des problèmes, des difficultés, une maladie ou un événement peut-être dramatique dans notre vie, que nous prions et que le Seigneur intervient, Dieu intervient de différentes façons. Je l'ai constaté dans ma vie où le Seigneur a répondu maintes fois, parfois pour des choses pratiquement les mêmes, et Dieu est intervenu de façon différente. Parce que c'est sa volonté, c'est son plan d'intervenir de la façon dont lui désire intervenir afin que toute la gloire lui revienne. Pensez aussi à Naaman, si vous vous rappelez, ce général syrien, on avait parlé d'Élisée, le prophète, qui pouvait intervenir pour le guérir de la lèpre, et cet homme s'était imaginé tout un scénario que le prophète viendrait d'une certaine façon, qu'il agiterait la main, qu'il ferait tout un tralala. Et le prophète ne s'est même pas déplacé, que du contraire. Il a dit à son serviteur, au général Naaman, qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Et il lui a fallu beaucoup de foi et beaucoup de persévérance et de conviction, car ces soldats l'ont exhorté à obéir au prophète Élisée afin d'être guéri, et cet homme a été guéri. Vous savez, parfois, on imagine que Dieu va intervenir d'une certaine façon, eh bien non. Dieu intervient comme il veut. Dieu intervient comme il veut. Il veut tester notre foi. Il veut aussi tester notre persévérance. Et c'est ainsi qu'il l'a fait avec ce jeune homme aveugle. Il lui a fait de la boue sur ses yeux. Et à ce moment-là, le jeune homme n'était pas guéri. Il a dit, va te laver au réservoir de Siloé et tu seras guéri. C'est pas le réservoir. C'est pas l'eau du réservoir qui l'a guéri. C'est pas la salive et la boue qu'il avait sur les yeux qui l'a guéri. Non. C'est sa foi et sa confiance dans le Seigneur. Dieu veut mettre notre foi à l'épreuve. Je prie et Dieu répond à sa manière. Et cette question que je me pose, que je nous pose ce matin, avons-nous vraiment confiance en lui? Suis-je prêt à accomplir ce que le Seigneur me dit et connaître la délivrance? Et ce jeune homme a accompli ce que le Seigneur lui avait demandé, sans comprendre, sans se poser des questions. Puisque Jésus l'a dit, eh bien, je le fais, il sait ce qui est le meilleur pour moi. Et bien souvent, nous les chrétiens, nous nous posons un tas de questions. Quand le Seigneur nous répond d'une certaine façon, fais ceci ou fais cela, nous discutons, nous voulons faire à notre manière, non? Obéissons au Seigneur, faisons ce qu'il nous demande de faire, ne discutons pas les ordres de Jésus, car c'est dans notre intérêt. C'est vrai que notre nature humaine, eh bien, nous avons besoin de comprendre. Nous n'aimons pas l'inconnu. Le jeune homme pouvait se dire, mais pourquoi est-ce que je dois aller au réservoir de Siloé? Seigneur, explique-moi pourquoi je dois aller jusque-là. Tu peux me guérir à l'instant. Non, il lui a rien demandé. Il s'est dit, il l'a dit, je vais le faire. Et nous, bien souvent, nous discutons les ordres de la parole de Dieu. Nous discutons trop souvent au lieu de nous mettre à obéir et faire confiance à notre Seigneur. Et nous voyons que ce jeune homme, après être allé là, il a vu clairement. Il a pu retrouver la vue. Et bien sûr, les questions fusent autour de lui. On sait que ce garçon est un aveugle. Mais pourquoi maintenant il voit? Alors ses amis lui disent, qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui, il raconte que c'est Jésus, il raconte comment il est intervenu d'une façon miraculeuse. Mais pour eux, c'est pas vraiment rationnel, c'est pas possible que ce jeune homme retrouve la vue de cette façon. Il faut que ce jeune homme comparaisse devant les hommes religieux de l'époque pour que ces gens-là puissent le sermonner ou lui expliquer que ce qu'il a vécu n'est pas normal. Et alors les pharisiens, bien entendu, lui posent, comme d'habitude, toutes sortes de questions, et nous voyons que ce jeune homme répète « Comment le Seigneur Jésus l'a guéri ?» Et bien sûr, ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui se dise venant de la part de Dieu fasse telle chose un jour de sabbat. On ne peut pas travailler le sabbat. C'est pas possible. Dieu, le sabbat, est en congé. Il a travaillé 6 jours et puis nous a dit, le 7e jour, tu te reposeras donc. Dieu est en congé le jour du sabbat. C'est pas possible qu'il y ait un miracle. Mais Dieu ne se repose jamais. Nuit et jour, il entend nos prières. Nuit et jour, il écoute nos prières. Et ces pharisiens de l'époque ont peut-être oublié le psaume 121 qui dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Même un jour de sabbat, Jésus n'était pas conventionnel. Jésus ne voulait pas faire les choses dans les traditions. Jésus agissait quand il devait agir, que ce soit le jeudi, le mercredi ou le sabbat. Jésus agissait, Jésus était rempli d'amour pour ceux qui venaient vers lui. Et bien sûr, les discussions commencent, les pharisiens essayent de savoir et chacun donne son avis, chacun prend son parti. C'est de la supercherie, ce jeune homme n'a jamais été aveugle, il faut que les parents viennent prouver que cet enfant est bien le leur et que cet enfant était aveugle. Et bien sûr, les parents sont convoqués, et bien sûr, les parents reconnaissent en lui leur fils. Ils disent, ben oui, c'est notre fils, mais maintenant, pourquoi il voit, on n'en sait rien. Il est adulte, il est majeur, demandez-lui, ils avaient peur. Nous ne voyons pas aucune réjouissance. Imaginez que ce serait vous, votre enfant qui serait guéri, votre enfant qui est handicapé serait guéri, mais vous allez vous réjouir. Il n'y a aucune réjouissance du côté des parents. Que du contraire, c'est la peur qui les gagne. Ils ne veulent pas glorifier Dieu. Vous savez, bien souvent maintenant, nous vivons un peu la même chose. Nous n'aimons pas trop appuyer que Dieu est intervenu dans nos vies parce que la peur nous gagne. Parler de Dieu, dire que Dieu accomplit encore des miracles de notre temps, c'est un peu ringard. Même les chrétiens sont un peu timorés en disant « ne nous avançons pas trop vite, ne disons pas que c'est le Seigneur qui nous guérit ». Nous avons cette peur aussi comme les parents. Il y a une crainte de la moquerie autour de nous. Les gens se moquent bien souvent quand nous disons que nous sommes chrétiens et que nous croyons à la guérison divine. Nous sommes un peu regardés comme des gens qui viennent d'une autre planète. La science est bien trop avancée pour que nous puissions croire au miracle. La science est bien trop avancée pour qu'on puisse attribuer à une guérison miraculeuse quand quelqu'un est malade. Alors on préfère parler de phénomènes inexpliqués. Combien de fois on entend déjà « Oh, il y a un phénomène inexpliqué qui vient de se produire ». Mais on ne veut pas dire que c'est Dieu qui intervient. Et les parents étaient vaincus par la crainte des hommes religieux de l'époque. Ils ont trop peur de perdre leur place dans la synagogue. Ils préfèrent se taire. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de témoigner de notre foi en Dieu. Il y a certaines mises en garde, il est vrai. Quand nous déclarons un miracle, soyons sûrs de ce que nous disons. Parce que bien souvent, on a entendu des choses et après nous voyons que ça ne s'est pas vraiment réalisé. Que si nous disons que nous sommes guéris, eh bien, je pense que nous devons aussi apporter des preuves scientifiques en allant consulter un médecin et que nous puissions prouver par des radios, par un scanner ou quoi, que notre guérison est bien une guérison qui vient de notre Dieu. Oui, je crois que Dieu encore peut intervenir dans notre corps, dans nos corps malades, mais soyons prudents pour ne pas que le témoignage soit faussé. Et en allant plus loin, nous voyons ce jeune homme qui est de plus en plus sollicité par les hommes religieux. Et toi, que dis-tu ? Que déclares-tu en parlant de cet homme ? Les religieux de l'époque veulent lui faire dire que c'est Satan qui a guéri cet homme, que ce n'est pas un prophète, que Jésus n'a rien d'un prophète. C'est pas possible que Dieu fasse un miracle le jour du sabbat. Mais ce jeune garçon a un témoignage extraordinaire. Il est doté d'un cerveau, comme nous tous, et il réfléchit. Et il ne veut pas qu'on lui fasse prendre des vessies pour des lanternes quelque part. Il a une très bonne réflexion. Il dit aux hommes religieux, si cet homme, comme vous dites, est mauvais, si cet homme n'est pas un homme de Dieu, comment Dieu peut lui répondre et me guérir? Et cette parole déstabilise les hommes religieux de l'époque. Ils ne s'attendaient pas à une réponse aussi claire de cet homme. Et les pharisiens, qui se croient un peu supérieurs à tout le monde, chassent ce pauvre garçon. Et c'est parfois, frères et sœurs, dur de témoigner de la vérité. C'est parfois très dur même pour nous de raconter comment Dieu est intervenu dans notre vie. Et nous rencontrons de l'opposition. Et je pense que parfois, bien souvent, nous sommes freinés dans notre témoignage parce que nous avons peur. Peur de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de cette opposition. Parfois, cette opposition peut venir même de nos frères et sœurs chrétiens qui nous disent « Mais tu es un fanatique. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre la parole de Dieu, frères et sœurs. » Oui, la parole de Dieu. Nous devons croire ce qui est écrit, car c'est une parole puissante, une parole vraie, et il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, si Dieu intervient dans notre vie, que ce soit d'une façon miraculeuse, que ce soit pour des problèmes personnels, que ce soit pour n'importe quel problème, eh bien, n'ayons pas peur. Face même à l'incompréhension, l'opposition de ceux qui nous entourent, de témoigner de l'action de notre Dieu. Et dans ces moments d'incompréhension pour ce jeune homme, eh bien, Jésus vient à sa rencontre. Et parfois, quand nous sommes découragés, quand nous nous sentons peut-être dans un moment difficile de notre vie, parce que nous voyons de l'incompréhension autour de nous, le Seigneur vient à notre rencontre. Il se révèle à nous. Et Jésus s'est révélé à ce jeune homme. Jésus s'est révélé en lui, faisant comprendre que lui, Jésus, était bien le Fils de Dieu. Jésus n'a pas souvent déclaré ouvertement à des gens de son époque, à part à ses disciples, il y a quelques personnes qu'il était le Fils de Dieu. Mais là, Jésus lui révèle qu'il est le Fils de Dieu. Et cet homme a vraiment glorifié Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, si nous sommes parfois dans des moments difficiles parce qu'on est incompris face à l'action de Dieu dans notre vie, sachons que Jésus vient près de nous pour nous soutenir. Et dans notre monde, on entend souvent « Moi, je croirai en Dieu quand je verrai des miracles. » Et s'il y avait une époque où les miracles étaient courants, c'était pendant la vie de Jésus. Combien de gens ont vu, assisté à des guérisons spectaculaires? Combien ont-ils cru en lui? Combien ont-ils cru? Frères et sœurs, c'est vrai, on aimerait bien que dans nos milieux, on voit des aveugles voir, des paralysés marcher. Pourquoi cela ne se passe pas? Dieu seul le sait. Mais je suis persuadé que même qu'en voyant des miracles ainsi, beaucoup de gens ne croiraient pas, croiraient à une supercherie. Alors, c'est vrai que quand on est fermé à la grâce de Dieu, les cœurs peuvent demeurer secs. Les cœurs peuvent demeurer secs. Mais nous, frères et sœurs, ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. Ouvrons notre cœur à l'action de Dieu pour qu'il puisse travailler dans nos vies, pour qu'il puisse se manifester et que nous voyons de grandes choses se produire dans notre vie. Frères et sœurs, si nous laissons la grâce de Dieu, si nous ouvrons, nous laissons ouvert notre cœur, nous verrons la gloire de Dieu et l'action de son Saint-Esprit en nous. Ne nous fermons pas à la grâce de Dieu, laissons-le agir en nous. Et soyons sans crainte que même si les difficultés surviennent à cause de notre témoignage, eh bien, comme pour ce jeune homme, le Seigneur vient à notre rencontre pour nous soutenir. Restons fermes dans la foi afin que le Seigneur puisse nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Seigneur notre Dieu, aide-nous à te voir dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, que le monde puisse voir que nous avons rencontré un Sauveur qui veut nous faire du bien, qui veut se manifester dans notre vie, Seigneur. Ô Seigneur, fortifie nos cœurs, fortifie ton Église, afin que nous ne perdions pas courage, Seigneur, face parfois à l'hostilité de ceux qui nous entourent, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, te faire confiance, et toi tu veux agir. Amen.